7197 заседание Совета Безопасности объявляется открытым. Предварительная повестка дня сегодняшнего заседания гласит: положение в Кот-д'Ивуаре. Повестка дня утверждается. На основании правила 37-го временных правил процедуры Совета Безопасности я приглашаю представителей Кот-д'Ивуара принять участие в данном заседании. Решение принимается. На основании правила 39-го временных правил процедуры Совета Безопасности я приглашаю специального представителя генерального секретаря и главу операции Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре госпожу Айшату Миндауду принять участие в данном заседании. Решение принимается. Теперь Совет Безопасности приступит к рассмотрению пункта 2 повестки дня. Я хотел бы обратить внимание членов Совета на документ С/2014/342, 34-й доклад Генерального секретаря об операции Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре. Сейчас я предоставляю слово госпоже Айшату Миндауду.
Merci, monsieur le président. Monsieur le président, Excellence, je voudrais vous remercier pour l'occasion qui m'est offerte de m'adresser ce matin au Conseil de sécurité pour présenter le rapport du secrétaire général sur la situation en Côte d'Ivoire, rapport en date du 15 mai, et de vous faire le point sur les récents développements dans le pays. La Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, est engagée sur la voie d'une stabilité durable. Le taux de croissance économique est impressionnant. Les infrastructures se développent rapidement et les investissements privés s'accroissent, attirés par un environnement des affaires très favorable, encouragé par le gouvernement du président Alassane Ouattara. Grâce à ces développements économiques positifs et à la hausse du salaire minimum de base, les populations ivoiriennes commencent à partager les dividendes de la paix. Monsieur le Président, comme le souligne le rapport que vous avez devant vous, le processus de réconciliation a connu un nouvel élan, avec la prorogation en février du mandat de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR. Celle-ci a poursuivi ses séances d'écoute à travers le pays, avec comme objectif d'entendre quelque 60 000 personnes avant l'expiration de son mandat en septembre prochain. Les attentes à l'endroit de cette commission qui doit faire des recommandations au gouvernement sur les réparations et autres mesures destinées aux victimes de la crise afin de favoriser le processus de réconciliation sont immenses. Dans le cadre des efforts en cours pour renforcer la réconciliation et la cohésion nationale, le président Ouattara continue de tendre la main aux proches de l'ancien régime, soulignant que chaque Ivoirien a un rôle positif à jouer pour l'avenir du pays. À sa demande, plusieurs centaines de personnes exilées volontaires sont revenues en Côte d'Ivoire, parmi lesquelles de hauts responsables du gouvernement de l'ancien président Laurent Gbagbo. Le gouvernement du président Ouattara continue également de poser des actes importants afin de réduire les tensions avec l'ex-parti au pouvoir, le Front populaire ivoirien, en octroyant la liberté provisoire à des personnes encore détenues et en dégelant les comptes bancaires de personnalités proches de l'ancien pouvoir. En outre, un certain nombre de domiciles appartenant à des proches de l'ancien président est occupé depuis la crise post-électorale par les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont été libérés et restitués à leurs propriétaires. Le processus d'intensification du dialogue entre le gouvernement et l'opposition politique comporte certes des défis. Comme le souligne le rapport soumis à votre attention, le Front populaire ivoirien a cessé en avril de prendre part au dialogue avec le gouvernement, invoquant la décision des autorités de transférer le leader des jeunes patriotes Charles Bré Goudé à la Cour pénale internationale à La Haye. Le FPI a également appelé ses militants à ne plus participer aux processus nationaux tels que les séances d'écoute de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et le recensement général de la population actuellement en cours. Cela dit, je suis heureuse, Monsieur le Président, de vous informer que des avancées importantes ont été enregistrées dans le dialogue politique y compris dans les discussions visant à identifier et dresser, d'un commun accord entre les parties, la liste des personnes proches de l'ancien régime détenues ainsi que les comptes bancaires encore gelés. Le dialogue formel entre le gouvernement et le FPI a repris le 22 mai. Cette reprise du dialogue a été suivie de la publication d'un communiqué conjoint dans lequel le gouvernement annonce la libération provisoire de 150 personnes proches de l'ancien régime et la reprise du dialogue constitue un développement très positif. Toutefois, certaines organisations de défense des droits de l'homme se sont inquiétées de ce que la décision de libérer ces détenus à la suite de discussions politiques pourrait dénoter d'une absence de séparation de pouvoir entre exécutif et judiciaire. Monsieur le Président, l'élection présidentielle prévue en octobre 2015 se profile à l'horizon et l'environnement politique est fluide. Quatre personnalités, parmi lesquelles le président Ouattara, ont annoncé leur candidature et le processus de mise en place d'un cadre légal pour la tenue du scrutin est en cours. Le 20 mai, l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi modifiant la composition de la commission électorale indépendante, commission qui devra désormais compter 17 commissaires. Ces 17 commissaires représenteront le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, la coalition au pouvoir, l'opposition politique et la société civile. Il est important de noter que ce sont les membres de la commission électorale indépendante qui éliront eux-mêmes le président de l'institution. Plusieurs partis d'opposition ont émis des réserves sur la composition de la commission électorale indépendante et dans le cadre de la poursuite de ce processus, il est important que toutes les parties travaillent de concert pour s'accorder sur les règles et les procédures de fonctionnement de cet organe ainsi que sur les autres mesures nécessaires afin de garantir la transparence et le caractère inclusif du processus électoral. Monsieur le Président, la promotion d'une culture de respect des droits de l'homme est essentielle pour la réussite du processus de réconciliation nationale. Cela requiert des mesures immédiates visant à mettre un terme à l'impunité en traduisant en justice les auteurs d'actes de violation des droits de l'homme indépendamment de leur appartenance politique. Des pas importants ont été enregistrés dans ce sens, avec par exemple la prolongation et le renforcement du mandat de la cellule spéciale chargée d'enquêter de façon sincère et impartiale sur la violence post-électorale. Des défis cependant demeurent, défis sur lesquels le gouvernement continue de travailler, notamment la justice, les dozos et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Excellence, bien que la situation sécuritaire se soit notablement améliorée depuis 2011, les vols à main armée, le banditisme et les autres activités criminelles continuent de contribuer à l'instabilité à travers le pays. Des défis considérables demeurent à l'ouest du pays, où certaines populations ont encore des réclamations dans les domaines du foncier et de la nationalité, domaines qui sont liés aux causes profondes de la crise ivoirienne. La police nationale et la gendarmerie ne sont pas suffisamment déployées ou ne disposent pas d'équipements nécessaires pour le maintien de l'ordre et pour faire respecter la loi dans plusieurs communautés à l'ouest du pays. Certains éléments des FRCI, chargés d'assurer la sécurité de ces zones, ont entaché leur légitimité suite aux extorsions et aux vols à main armée qu'ils ont commis auprès de ces populations même qu'ils étaient censés protéger. Dans le même temps, on note un engagement sans faille des plus hautes autorités du gouvernement à promouvoir la réforme du secteur de la sécurité. Toutefois, le manque de confiance de certaines populations dans les institutions de sécurité nationale limite les possibilités d'un contrôle démocratique efficace de ce secteur. Cela constitue une menace quant à la consolidation de la stabilité du pays. Dans plusieurs zones, les dozos, qui sont les chasseurs traditionnels, assurent des tâches de sécurité et ont en maintes occasions commis des violations des droits de l'homme. Le gouvernement continue d'encourager les dozos à retourner à leurs activités traditionnelles et travaille à l'établissement d'un cadre légal approprié pour la gestion de cette question. La restauration de la sécurité publique à travers le pays, qui est une priorité immédiate, nécessite des avancées significatives dans le domaine de la professionnalisation des forces de défense et de sécurité par le biais des réformes visant à accroître leur légitimité et leur efficacité, tout en incluant la participation des femmes dans les institutions de sécurité. Le président Ouattara, Monsieur le Président, a établi pour son gouvernement un objectif ambitieux de désarmement de tous les ex-combattants avant la fin du mois de juin 2015. Des progrès importants ont été enregistrés et à ce jour, 30 000 des 70 000 ex-combattants recensés ont reçu un appui du gouvernement ou de l'Organisation des Nations Unies pour leur réintégration. Avec l'appui additionnel des autres partenaires, le gouvernement devrait être en mesure d'atteindre son objectif, qui est de conclure le processus de désarmement inclusif en offrant à tous les ex-combattants des opportunités de réintégration durable avant les élections de 2015. Monsieur le Président, après une année marquée par un calme général dans les zones frontalières avec le Libéria, on a noté deux attaques contre les postes des forces républicaines de Côte d'Ivoire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Au cours de la dernière attaque, les assaillants ont chassé les FRCI d'un village appelé Fété, exposant les populations à une brutalité inouïe. Les troupes de l'ONUCI sont immédiatement intervenues. Elles ont échangé des coups de feu avec les assaillants, les ont délogés du village et ont libéré les populations. Ces assaillants avaient déjà tué et mutilé 3 soldats et 10 civils, y compris 2 enfants. Je suis fier de dire que nos troupes ont réagi avec bravoure, même au moment où elles ont été directement exposées au feu de l'ennemi, ce qui démontre leur ferme détermination à protéger les civils. Nous menons des enquêtes sur cette attaque afin de déterminer si les auteurs ont franchi la frontière libérienne pour entrer sur le territoire ivoirien. Il est important d'en savoir plus sur l'identité de ces assaillants et leurs mobiles afin de prévenir de telles attaques à l'avenir. Notre première évaluation est que de telles attaques soulignent, d'une part, la nécessité de poursuivre les avancées au niveau du DDR et, d'autre part, l'importance pour la Côte d'Ivoire de disposer de forces de sécurité professionnelles capables de mieux protéger les populations civiles. Nous travaillons aussi avec la mission des Nations Unies au Libéria pour renforcer notre coopération. Nous sommes sur le point de finaliser un nouveau cadre stratégique d'action. Parmi nos objectifs prioritaires et dans le but d'appuyer nos partenaires nationaux respectifs, nous examinons comment nous pouvons contribuer au renforcement des capacités nationales pour mieux sécuriser ces frontières. Le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux gouvernements a contribué de manière significative à améliorer la sécurité dans les zones frontalières. À cet égard, il est tout aussi important d'encourager les efforts en vue de donner plus de pouvoir aux communautés locales et d'inclure les chefs traditionnels, les jeunes et les femmes dans les initiatives destinées à promouvoir la stabilité, ceci en raison de l'étroitesse des liens familiaux et historiques entre les peuples vivant des deux côtés de la frontière. Nous encourageons également la mise en œuvre de la stratégie de la sécurité transfrontalière élaborée par l'Union du fleuve Mano et endossée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur le Président, l'ONUCI vient de restructurer sa composante militaire et a consolidé sa présence dans l'Ouest et les autres zones à haut risque, conformément à la requête du Conseil de sécurité. Depuis la fin du mois de décembre de l'année dernière, les institutions nationales de sécurité sont désormais entièrement responsables de la sécurité des hauts responsables du gouvernement et des autres personnalités politiques. À la fin du mois de mai, nous avons achevé le retrait de 1700 troupes, conformément à la résolution 2112-2013 du Conseil de sécurité. Ces réductions des effectifs militaires ont été possibles en raison des progrès importants accomplis et nous nous en félicitons. Toutefois, nous sommes conscients que les prochaines élections prévues en 2015 constitueront un pas important pour le pays et qu'elles se dérouleront dans un environnement sensible. Il est dès lors important, comme le recommande le secrétaire général, d'adopter une approche prudente pour ce qui est de la prochaine réduction des forces. Cependant, nous nous efforçons de faire plus avec moins. Et nous croyons par conséquent que nous sera parfaitement possible de mettre en œuvre notre mandat tout en procédant à une réduction supplémentaire de 1100 troupes. Notre vision sur l'utilisation de notre personnel en uniforme au cours de la période électorale est axée sur un nouveau concept de mobilité des opérations qui vise à renforcer les capacités de combat de nos forces. L'élément clé pour la mise en œuvre du nouveau concept des opérations est la création au sein de l'ONUCI d'une force de réaction rapide, force qui va nous aider à combler le vide dans certaines zones du pays du fait de l'absence d'une présence militaire permanente. La mobilité, y compris la possibilité de déployer des éléments héliportés, est essentielle pour la réussite de ce dispositif. En mai dernier, la force de l'ONUCI a organisé une série d'exercices militaires destinés à développer ses capacités à réagir en moins de 12 heures à toute situation d'urgence partout en Côte d'Ivoire. En outre, la police des Nations Unies est en train de travailler étroitement avec ses partenaires nationaux pour trouver les moyens d'appuyer la mise en œuvre des principales priorités stratégiques telles que le contrôle de sécurité, la formation et le mentorat au bénéfice des forces de la police nationale et de la gendarmerie. L'objectif est de les préparer à reprendre leur rôle traditionnel de maintien de l'ordre et de renforcer l'état de droit en Côte d'Ivoire. L'une des principales préoccupations de l'ONUCI, Monsieur le Président, reste la restauration de la confiance entre les populations ivoiriennes et les forces de sécurité afin de parvenir à une paix durable. Pour atteindre cet objectif, il faudrait que les forces de sécurité répondent aux normes standards de professionnalisme et d'éthique. Les forces de police constituées continueront à servir en deuxième ligne d'appui aux forces nationales de maintien de l'ordre. Un rôle particulièrement important dans certaines zones du pays où il n'y a pas de présence militaire ainsi que durant la période électorale. Excellence, le maintien de la paix constitue un partenariat unique, un effort de collaboration pour la cause de la paix. Je voudrais, pour conclure, exprimer ma sincère reconnaissance pour le partenariat efficace que nous avons mis en place. Ce conseil, le secrétariat, l'ONUCI, nos troupes et les pays contributeurs de forces et de police, l'équipe des pays des Nations Unies, travaillons tous étroitement et de concert avec le gouvernement et le peuple ivoirien et nous les accompagnons dans leurs efforts pour consolider une paix durable. Monsieur le Président, je vous remercie.
Я благодарю госпожу Миндауду за ее брифинг и хотел бы предоставить слово представителю Кот-д'Ивуара.
Merci, Monsieur le Président. Étant donné que ma délégation prend la parole pour la première fois sous votre présidence, j'ai plaisir à vous adresser nos sincères félicitations pour l'élection de votre grand pays, la Fédération de Russie, à la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de juin. Monsieur le Président, ma délégation prend note de l'excellent rapport du secrétaire général figurant au document S-2014-342 en date du 15 mai 2014 et remercie Madame la représentante spéciale du secrétaire général en Côte d'Ivoire, Son Excellence Madame Aïchatou Mindaoudou, pour sa présentation de la situation en Côte d'Ivoire. Je dois dire que ma délégation partage tout à fait la présentation de la situation en Côte d'Ivoire qu'elle vient de faire. Et je voudrais à ce stade simplement faire quelques brèves remarques pour renforcer cette convergence de vues. Ainsi donc, je voudrais noter avec satisfaction et me féliciter de la coopération exemplaire qui caractérise les relations entre mon pays et les Nations Unies, notamment par le biais de la présence de l'ONUCI en Côte d'Ivoire. Les progrès remarquables qui jalonnent l'évolution de la Côte d'Ivoire depuis la fin de la crise qu'elle a traversée résulte notamment de l'excellence de ses relations. Nous constatons en effet que l'ONUCI n'a ménagé aucun effort dans l'accompagnement de la Côte d'Ivoire dans les différents chantiers de la reconstruction post-crise. Au plan sécuritaire, elle a noté la situation demeure globalement stable et les activités liées à la réforme des secteurs de sécurité s'accélèrent et celles relatives au DDR également, et cela a permis au 1er mai 2014, comme figurant dans le rapport, la démobilisation et le désarmement de 22 590 ex-combattants. Le dialogue politique se poursuit de façon responsable. Et à cet égard, les facilitations apportées par les Nations Unies, notamment par Mme la SRG, se sont avérées très appréciables. Le processus de réconciliation nationale est bien relancé suite au renouvellement du mandat de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Au plan économique, la dynamique de croissance se renforce et le gouvernement entend mettre l'accent sur la lutte contre la pauvreté afin de rendre cette croissance économique plus inclusive. Il nous plaît donc de corroborer ici que ces bons résultats obtenus dans les différents domaines et qui sont mentionnés dans ce rapport du secrétaire général sont le fait donc de cette coopération exemplaire. Je voudrais également ici relever que la coopération constructive que mon gouvernement a conduite à le Conseil de sécurité a permis, au terme d'un examen transparent de la situation du régime des sanctions concernant la Côte d'Ivoire, d'aboutir à la levée de l'embargo sur les diamants produits en Côte d'Ivoire et à la levée partielle de l'embargo sur les armes, et ce, conformément à la résolution 2153 adoptée le 29 avril dernier par le Conseil. Monsieur le Président, toutes ces évolutions positives ont renforcé le retour de la normalisation et renforcé la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce pourquoi ma délégation marque son plein accord au plan de réduction progressif des contingents militaires de l'ONUCI proposé au paragraphe pertinent du rapport du secrétaire général sur cette question. Monsieur le Président, il est évident donc qu'au rapport de toutes ces évolutions, le défi principal demeure la consolidation de la stabilité de la situation sécuritaire, particulièrement dans le contexte des prochaines élections prévues en 2015. À cet égard, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement concentrent tous les efforts nécessaires en vue de la tenue de ces élections dans un climat apaisé, de sorte à assurer la pérennité et la stabilité en Côte d'Ivoire. En conclusion, et fort de tout ce qui précède, je voudrais indiquer ici que ma délégation donc, souhaite le renouvellement du mandat de l'ONUCI et exprime son plus grand intérêt pour le projet de création de la force d'intervention rapide régionale figurant dans les rapports du secrétaire général, notamment ses paragraphes 68, 69 et 70, et appuie leur mise en œuvre effective. Je vous remercie, Monsieur le Président.
Я благодарю представителя Кот-д'Ивуара за его заявление. В моем списке больше нет ораторов. Сейчас я приглашаю членов Совета Безопасности на неофициальные консультации для продолжения обсуждения этого вопроса. Заседание закрывается.